C'est pas grave, ça se voit pas à la radio.
Ouais, c'est ça.
Donc je m'appelle Fabien Zocco, je suis artiste plasticien. En termes de parcours, j'ai fait des études d'histoire après le bac, puis les beaux-arts à l'ESI, à l'École Européenne Supérieure de l'Image, à Angoulême et Poitiers, où j'ai commencé à développer un peu le type de forme que je développe toujours dans le cadre de ma pratique, qui sont, pour le résumer assez rapidement, souvent des objets qui font intervenir la technologie, et qui en général tourne autour des relations entre le technique et le langage, et qui m'amène à développer soit des projets qui sont comme des sortes de méta-machines à écrire, en fait, qui font intervenir des logiciels ou des logiques algorithmiques que je mets en place, que je programme dans le but de faire advenir du texte. D'autres pistes de développement de mon travail, c'est toujours dans cette question autour du langage, mais au-delà du sémantique, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on donne des capacités de gestes ou de comportements à un objet. Donc je développe des formes de sculptures robotiques, qui sont donc des sortes d'objets en mouvement qui, en général, créent des situations de sortes de conversations, des objets qui se mettent à faire signe. Et donc après les Beaux-Arts, j'ai fait un post-diplôme qui s'appelle le Frénois, dans le Nord, où je vis toujours, en fait. Je vis actuellement à Lille. Dès les Beaux-Arts, j'ai commencé à développer des systèmes, par exemple, faisaient intervenir l'intelligence artificielle. Donc j'ai réalisé une installation qui s'appelle Conversation, Agent Conversation, qui se présentait comme un écran sur lequel apparaissaient des phrases alternativement sur fond blanc et sur fond noir. Ces phrases étaient en même temps prononcées par des voix de synthèse. Ces phrases émanaient d'une intelligence artificielle qui se parlait à elle-même. J'avais détourné ce qu'on appelle un chatbot, donc un logiciel qu'on trouve maintenant sur Internet comme une sorte de gadget avec lequel on peut converser. Donc on écrit des phrases et la machine analyse ces phrases et renvoie en fait une réponse à partir de l'analyse sujet, verbe, complément de la phrase, quoi, que le logiciel arrive à distinguer. Et donc à partir de ce qu'il distingue, il reformule une sorte de réponse. Je détournais ce principe en réécrivant la base de vocabulaire du logiciel de manière à ce qu'il se parle à lui-même, en fait, ce qui crée une sorte de conversation de synthèse très étrange et qui se construit, se déconstruit, se reconstruit au fur et à mesure de l'exposition. C'est des situations qui sont des machines à écrire, quoi, qui sont des systèmes de production d'une forme de texte, quel qu'il soit. J'ai fait une pièce aussi, et après les Beaux-Arts, qui s'appelle Searching for Ulysses, une sorte de déconstruction, reconstruction du Ulysse de James Joyce, donc un livre un peu emblématique de la littérature du XXe siècle, atomisé et reconstitué à travers Twitter. Donc, En fait, le principe de la pièce, c'était que toutes les 25 secondes apparaissait sur la vidéoprojection un nouveau tweet qui correspondait en fait à un nouveau mot du texte. Donc le programme lisait mot à mot le texte de Joyce. Et toutes les 25 secondes, il allait rechercher le dernier tweet qui avait été émis quelque part sur Terre et qui contenait donc le mot qu'il était en train de lire. Donc par exemple, la première phrase en anglais de Ulysse, c'est « Stately, plump, buck, mulligan », donc il commençait par « Stately ». Donc il allait chercher le dernier tweet émis quelque part sur Terre où quelqu'un avait écrit « Stately ». Donc le programme faisait remonter ce tweet qui s'affichait. Le texte du tweet était écrit en blanc, sauf le mot « Stately » qui appartenait à la fois au tweet et au texte de Joyce, qui était écrit en orange. Puis donc, 25 secondes après, il passait au mot suivant qui est « Plump ». Et même principe, il allait chercher le dernier tweet émis quelque part sur Terre qui contenait « Plump ». Toutes les 25 secondes, on progressait à la fois dans le texte avec l'affichage donc de ce tweet qui était comme une sorte de véhicule transitoire d'un fragment du texte de Joyce. Et on avait comme une sorte de palimpseste comme ça, de métatexte qui s'écrivait au fur et à mesure de la lecture, et comme une sorte d'effet de rencontre quelque part entre ce texte du XXe siècle et puis cette sorte de masse de mots, cette masse de textes qui circule à travers les réseaux via Twitter. Comme une sorte de dissémination du texte, en même temps de reconstruction, enfin, c'est une espèce de procédé paradoxal où le texte est à la fois un peu délité et détruit dans Twitter, et en même temps, c'est comme transporté à travers tous ces tweets. sorte de questionnement aussi sur le lieu d'existence d'un texte à travers les réseaux numériques. Quoi. Qu'est-ce qui se passe quand le texte finalement se retrouve non plus transporté à travers le livre, qui est un peu son support d'origine, mais qu'est-ce qui se passe quand ce texte se trouve dans une sorte de circulation infinie et immatérielle à travers les réseaux hein. C'est des pièces qui sont intéressantes à rejouer dans des contextes assez différents. Quoi. À Polignano a Mare, par exemple, en Italie, c'était dans un palais du XVIIe siècle. Donc on avait des couloirs voilà, d'un endroit assez cossu. Et puis au détour d'un de ces couloirs, dans une galerie à moitié extérieure, on tombait sur cet écran donc, avec cette conversation étrange incarnée par des voix de synthèse. A contrario, je l'avais présenté, donc hein, je l'avais présenté au FRAC, c'était dans une petite salle où on tombait voilà, sur un grand écran qui était positionné sur un meuble en métal assez étrange, comme une sorte de presque de sculpture écran qui incarnait donc cette machine qui conversait avec elle-même. Donc c'est aussi des pièces que j'aime bien voilà, réadapter en fonction des lieux. Quoi. Là, par exemple, l'an dernier, j'étais en résidence à Rome pendant 3 mois. Une des pièces que j'ai réalisées, c'est une intelligence artificielle qui apprend à parler italien. Lors de l'expo de restitution à Lille, la pièce se présentait sous la forme d'un écran qui était suspendu avec un haut-parleur qui était aussi suspendu, d'où sortaient les voix de synthèse, en fait, qui montraient les résultats de cette intelligence artificielle en train d'apprendre à parler italien. Et là, la pièce, le mois prochain, je vais aller l'exposer à Rome dans le cadre d'une expo dans un run space. Donc, un run space, c'est un lieu qui est tenu par des artistes qui, à la fois leur atelier, un espace d'exposition. Et là, vraisemblablement, j'ai montré la pièce dans des conditions et d'une manière totalement différente. C'est intéressant de repenser aussi, dans chaque circonstance, comment faire exister ces pièces qui, justement, sont des processus un peu dématérialisés. Le cœur de la pièce, c'est un logiciel. Ça offre la possibilité de repenser à plein de configurations différentes pour restituer ce processus qui est le cœur de la pièce. Donc, à chaque fois, en fonction de la taille de l'écran, des systèmes son, je trouve des manières de faire exister différemment ce type de pièces qui, elles-mêmes, sont quand même plutôt dématérialisées à l'origine. C'est à contrario, du coup, en parallèle à ça, donc j'ai commencé à développer un travail qui repose sur des logiques numériques, mais qui est plus incarné. Il repose cette fois sur des objets en mouvement. Quand j'étais au Frénois, j'avais développé une pièce qui était une structure en métal, une sorte d'arc de cercle avec des pieds en fait dessus qui supportent 8 bras robots en train de manipuler des téléphones portables. Et ces téléphones portables affichent et prononcent un texte qui est généré par une intelligence artificielle à partir de tous les mots de la Bible. Donc en fait, cette sorte d'hydre mécanique, en fait, on voit voilà, des robots, des téléphones en mouvement et en situation d'élocution, quoi, en train de parler, d'afficher du texte, devient comme une sorte de cercle d'exégète, de chorale artificielle qui recrache cette sorte de texte étrange généré par une machine à partir de la Bible. Cette pièce est un peu une pièce centrale parce qu'elle est à la fois issue de mon travail sur le texte, mais elle ouvre justement des perspectives vers des sculptures robots. Donc à partir de cette pièce-là, j'ai vraiment développé d'autres projets, des robots qui jouent à un jeu vidéo par exemple, des robots cubes qui se déplacent très lentement sur le sol. Quand j'étais à Rome, j'ai fait aussi une pièce avec 2 mains robots qui sont posées sur une plaque de marbre et qui ont l'air de converser l'une avec l'autre parce qu'elles reproduisent par leur mouvement un dialogue qui est le dialogue entre Hal 9000 et Dave Bowman, donc 2 protagonistes, un humain et une machine de 2000 ans au-dessus de l'espace. J'ai fait une pièce aussi qui est une araignée robot qui se déplace sur le sol et dont les comportements répondent à mes émotions en direct. Une pièce qui s'appelle Spider and I que j'ai fini il y a 1 an, que j'ai réalisée en collaboration avec un laboratoire de l'université de Lille, qui est un laboratoire qui travaille sur la mesure des émotions à travers des signaux biométriques. Donc quand la pièce est exposée, j'ai un bracelet connecté qui récupère mes variations de rythme cardiaque et les états de sueur dans ma paume, qui une fois analysés traduisent mes états de stress. Et donc ces données sont envoyées via le net vers le robot, où qu'il soit. Ça marche évidemment à distance, et donc en fonction de ces données, l'araignée robot sur le sol va commencer à évoluer, à se comporter de manière différente, à se montrer agressif quand moi je suis stressé, ou à se montrer plutôt calme quand moi je suis dans un état plutôt détendu. Donc voilà un peu le type de territoire, on va dire, et de forme que j'explore, donc avec chaque fois finalement un peu une sorte de questionnement sous-jacent sur les relations entre l'humain, le vivant et l'artificiel. Comment, d'une certaine manière, on anthropomorphise de plus en plus les machines, comment les machines sont de plus en plus inspirées du vivant dans leur fonctionnement, dans leur modalité, et à l'inverse, comment nous, on se mécanise de plus en plus au contact quotidien de machines, quelles qu'elles soient, et ça me questionne, voilà, cette sorte d'effet de renversement, ou comment l'humain bâtit une sorte de relation étrange en miroir avec l'artificiel. C'est un peu le cœur des questionnements qui nourrissent mon travail et que je déploie au fil de mes différentes réalisations. Et donc le projet que je développe à la Métive s'appelle Littérature d'ameublement, plutôt lié à la partie de ma démarche qui concerne le texte, le langage et le numérique. En fait, c'est un projet qui est né il y a pas mal de temps autour d'un intérêt, d'une obsession que j'avais pour un objet étrange, qui est le livre factice qu'on voit dans les espaces témoins des magasins de meubles. Ouais, ça a toujours été un objet que j'ai trouvé vraiment assez saugrenu, quoi. Voilà, c'est une espèce de simulacre de livre que les marchands de meubles mettent pour habiller, pour donner un peu de cachet finalement à leurs espèces de vitrines de meubles. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire quelque chose avec ça, donc j'avais commencé en catimini à faire le tour des magasins de meubles autour de chez moi et de les photographier, ouais, faire des sortes de typologies de ces faux livres. Et enfin voilà, c'était un projet comme parfois on en a, auquel on pense une fois tous les 6 mois, qu'on laisse maturer dans un coin de sa tête. Et puis un jour, je me suis dit que si je fais un projet autour de ces livres, j'appellerais ça littérature d'ameublement. Quelques mois passent et puis un jour, je me dis, mais en fait, ce titre littérature d'ameublement qui était resté dans ma tête, en fait, il dérive des Musique d'ameublement, qui est un titre que Eric Satie, donc un compositeur français du début du 20e, proche des surréalistes, Satie avait donné ce titre à une série de morceaux qui fonctionnaient tous sur un principe assez simple, qui était la répétition, l'itération d'une phrase mélodique elle-même très simple, qui faisait jouer comme ça pendant des heures dans des situations, dans un restaurant par exemple, ou dans des situations inhabituelles. Comme une sorte de musique d'ascenseur avant l'heure. Et quelque part, ces musiques d'ameublement sont considérées comme un peu l'acte fondateur des musiques minimalistes et répétitives, donc un peu tout ce qu'on va connaître avec Philip Glass, Steve Reich, Terry Riley, une cinquantaine d'années plus tard. Satie a pas mal anticipé ces formes d'écriture, de composition, par les musiques d'ameublement. Je me suis dit, autant aller au bout de cette sorte de référence à Satie qui s'était un peu glissée par mégarde dans le projet. Et donc l'idée a été de constituer des vrais faux livres, un peu sur le modèle des faux livres de magasins de meubles, mais de remplir ces livres avec des textes que je génère au moyen de logiciels que je programme, et qui, par des effets de répétition, d'itération, s'inspirent en fait des méthodes de composition d'Eric Satie pour les musiques d'ameublement. Parce qu'un ordinateur, en fait, il n'y a rien de plus approprié pour travailler sur des effets de distorsion, de répétition, de réagencement, de contenu. Et donc l'objet là du travail à la Métive pendant 2 mois, ça a été d'imaginer donc ces textes et de les concevoir. Comme il y a 5 morceaux identifiés comme des musiques d'ameublement, je fais 5 volumes qui font chacun une centaine de pages. Ces volumes viendront ensuite s'insérer dans une sorte de coffret cartonné qui va lui-même ressembler à un faux livre. C'est des vrais livres insérés dans une sorte de simulacre de faux livres. Donc l'idée est de réaliser une sorte de livre-sculpture qui deviendra le réceptacle de ces 5 volumes. Pour ce qui est du texte, chaque volume en fait déploie une méthode d'écriture un peu différente. Le premier est un dialogue que j'ai généré au moyen d'une intelligence artificielle, donc une sorte de dialogue très étrange. Le deuxième volume, il joue un peu sur la combinatoire de plein de verbes. En fait, j'ai trouvé toute la liste de tous les verbes français. J'ai trouvé des séries d'entités, par exemple les 4 chevaux de l'apocalypse, les 3 parcs, des sortes de groupes comme ça qui appartiennent ou à la mythologie ou à l'histoire ou à des choses qui m'intéressent. J'attribue un verbe à chacun de ces groupes. Et on a comme ça une sorte de répétition de phrases très simples avec juste un sujet et un verbe conjugué. Donc ça crée comme une sorte de narration étrange, mais juste avec enchaînement de sujets et de verbes. Ensuite, au moyen de ce qu'on appelle un algorithme génétique, qui est un algorithme statistique, je crée des nouveaux adjectifs en fusionnant 2 autres adjectifs, une sorte d'adjectif de synthèse. Et puis j'ai un volume aussi qui est une sorte de mot de 100 pages, complètement saturé de texte, comme si c'était un seul mot qui garnissait les 100 pages. Et en fait, ce mot est issu d'agencement des 224 syllabes les plus utilisées en français. Donc quand on lit ce mot, on a l'impression de voir une sorte de gros tas de lettres indiscernables. Et en fait, quand on regarde un peu à l'intérieur, on reconnaît des formes de syllabes, je sais pas, des aimants, ois, issants, des syllabes qui nous sont familières parce qu'elles sont vraiment très présentes en français. Donc on a un peu comme une sorte de matière, comme si finalement tous les mots du français étaient des boules de pâte à modeler qu'on aurait réunies dans une sorte de grosse boule. On verrait des bouts de chacun émerger d'un endroit à un autre, donc on est face à une sorte de grosse matière de français de synthèse. Comme c'est glissé, donc encore une fois, cette référence à Satie, donc à la musique, et que la musique par ailleurs est très importante pour moi, quoi, au quotidien, je me suis dit que ça serait intéressant, une fois que l'édition sera réalisée, de travailler à une mise en musique de ces textes. Donc j'ai recontacté un compositeur qui s'appelle Jonathan Bell, et avec qui j'avais déjà travaillé sur une mise en voix des textes qui étaient générés par mon installation avec les téléphones et les textes de la Bible. On s'est dit que ça serait intéressant de travailler ensemble à une mise en voix des textes qui sont générés pour littérature d'ameublement. Donc on est en train de réfléchir à des modalités de rencontre entre nos systèmes d'écriture respectifs. L'idée, ça serait à la fois d'avoir une composition pour chorale qui pourrait jouer à partir de textes qui ont donc été écrits, mais aussi à partir des logiques d'écriture que j'ai mis en place pour littérature d'ameublement. Donc on pourrait avoir aussi du texte généré en temps réel et qui, par le système de smartphone qu'utilise Jonathan, on pourrait aussi modifier le texte en direct pendant la performance ainsi que la composition. Il se trouve qu'en Creuse et sur le plateau, il y a une tradition de chorale, en fait. Et pour nous, ça serait intéressant de rencontrer des pratiques du chant qu'on pourrait associer, finalement, à notre travail de mise en place de ce projet, enfin, de la dimension chantée, en fait, du projet littérature d'ameublement. Donc voilà, avec un peu de chance, peut-être qu'on pourra venir, justement, développer cette mise en voie sur le territoire d'ici quelques temps. Il y a vraiment toujours un impact du lieu dans le projet que tu es en train de faire. Ajouter à cela le contexte actuel qui fait que c'est quand même bien plus agréable d'être en Creuse que d'être à Lille en ce moment. Il y a quand même un effet aussi de concentration, tu vois, ici, qui me permet d'être focalisé sur la pièce et en même temps de bénéficier d'un cadre qui est quand même assez privilégié, on va dire. Et une singularité de la Métive, c'est qu'il y a beaucoup de passages d'artistes et sur des pratiques qui sont extrêmement diverses. C'est aussi un espace de rencontre. À la fois, je suis amené à être vraiment concentré sur mon projet, parce que voilà, quoi, je suis pas chez moi, je suis dans un contexte qui s'y prête, mais aussi je suis au contact de plein d'autres pratiques, de plein d'autres démarches, et ça, c'est aussi très précieux quand on est en situation de création, parce que c'est aussi des moments où on peut parler du projet, où on peut échanger sur les projets respectifs, et où forcément le regard des autres vient nourrir la création en cours. Comme là, c'est aussi une phase qui est très personnelle, c'est aussi intéressant de bénéficier là du contact, en fait, des autres artistes que je suis amené à rencontrer à la Métive.